Les Motifs, le nouveau magazine de l'actualité culturelle.
Bonjour, en ce début d'année 2022, Les Motifs sont partis à la rencontre d'un homme qui fait l'actualité culturelle de ce mois de février à Aurillac. Les écuries du Jardin des Carmes accueillent en effet Billancourt et Vanité, une exposition de photographie de Philippe Moncel. D'origine cantalienne, né en Belgique et installé aujourd'hui dans le Nord Cantal, Philippe Moncel a tour à tour été photographe, éditeur d'art et réalisateur de documentaires. Dans la troisième partie de l'entretien que nous a accordé le photographe Philippe Moncel, nous le retrouvons à la porte de l'usine Renault-Billancourt sur l'île Seguin.
On a tous un motif pour vivre un bon moment.
On ne peut pas montrer ça, parce que là, les usines, maintenant, ça va être autre chose, ça va être la robotisation, on va décentraliser, on va externaliser, on va se mettre en Roumanie, on va se mettre en Espagne, voilà, c'est fini, terminé. Donc, on a lutté au plus haut niveau, hein. Et on a finalement obtenu. Donc il y a 7 photographes, parce qu'on n'était pas seul à vouloir le faire. 7 photographes ont été triés, ont été sélectionnés. Et on nous a dit, voilà, vous avez droit à 2 séances. Vous avez droit à une séance de repérage. Donc on était 10, hein, 10 appariteurs autour de nous, parce qu'il y avait un certain danger. Hein. L'usine avait été vandalisée. Tout était en 10 ans. Tout était devenu fragile et il y avait du danger. Donc on a fait une séance de repérage et je savais qu'il fallait être extrêmement organisé pour faire cette campagne, car on avait droit après 2 séances de prise de vue, 2 journées. Une en janvier et une en mars. Et donc j'avais pas l'appareil photo pour faire le repérage, c'était pas la peine. Donc j'avais mon carnet et je notais à chaque fois ce que j'avais envie de faire, pour préparer, pour que ça chemine même aussi mentalement avant la première séance. Et ensuite, j'avais organisé mon travail. Et lorsque je suis arrivé pour la première séance, ben je savais, premièrement, je faisais là, j'allais là. Je n'avais plus rien à regarder. Je savais où je devais aller. Parce que sinon, il y a tellement de choses. C'est tellement extraordinaire comme théâtre que sinon, ben, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi photographier. Donc tout était... Il y avait une partition, en quelque sorte.
J'imagine que ce ne sont pas des ruines que vous voulez montrer. Il y a quelque part aussi l'envie de témoigner de ce qu'a été le lieu, de ce qu'ont été les luttes sociales qui ont pris naissance dans ce lieu.
Exactement, vous avez le mot juste, oui. C'est la même chose que photographier le Parthénon ou Herculanum ou Pompéi. C'est-à-dire que c'est ce qui reste, c'est devenu un monument, c'est devenu un sanctuaire, c'est devenu les premières photos, on dirait une cathédrale. Oui, il y a quelque chose qui vit là, qui est une transposition, mais il y a une transcendance, oui. Il y a une transcendance qui s'attache aux lieux de mémoire, qui sont les temples grecs, ou qui sont les usines, qui sont les églises chrétiennes catholiques, ou qui sont les mosquées. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. L'homme construit ça de la même manière, en fait. Il y a quelque chose qui est à l'origine de... Alors là, c'est l'industrie, donc c'est une rationalité, mais il y a eu une croyance dans l'automobile. Il y a une sorte de surcharge affective, une surcharge spirituelle qui s'est déposée sur l'idée du mouvement et de la voiture. Donc, mais en même temps, c'est bien une vanité, comme le Parthénon, comme Pestum ou Herculanum, c'est-à-dire que ou comme le Petit Palais, parce qu'il y a une image du Petit Palais dans l'exposition, mais le Petit Palais est une construction pour l'exposition universelle de 1889. L'architecte reprend le vocabulaire architectural grec, gréco-romain, mais grec. Ça veut dire qu'il reproduit la vanité de l'infini, de la durabilité infinie de la construction, donc qui est une sorte de transposition sur le refus de la vanité, le refus de la finitude humaine, en fait. C'est la transposition dans l'architecture. Et en fin du 19e siècle, au Petit Palais, il recommence. On reprend. Alors que l'architecture technique métallique est là, tout le bâtiment est conçu avec les nouvelles techniques architecturales métalliques, tout est masqué, sauf la verrière, comme le Grand Palais en face. Mais le vocabulaire qu'on donne pour se redonner une sorte de post-modernité, une post-antiquité, c'est le vocabulaire comme à New York. L'image de New York qu'on voit dans l'exposition, alors là, ça se passe dans le début des années 20e siècle. Disons que le New York historique, ça s'arrête à 1940. Après, on peut faire des immeubles d'un kilomètre de haut, à Abu Dhabi, tout ça, ça n'est plus ça. Mais New York, c'est-à-dire l'artefact, on construit sur un marais quelque chose qui n'a jamais existé au carré, on reprend le vocabulaire. Alors là, on fait un mix, on reprend le vocabulaire grec, on le mixe avec le gothique, et on a toujours ce mythe de la durabilité. Et donc Billancourt, d'une certaine façon, porte ça aussi. Donc moi, mon travail, c'était de montrer ça, en fait, à Billancourt. Parce qu'il y avait plein de choses spectaculaires, des graffitis dus au vandalisme, dus aux entrées illicites, plutôt. Les graffitis, c'est pas du vandalisme, mais bon, il y avait plein de choses spectaculaires. Mais c'était pas Billancourt. C'était une traduction contemporaine de ce qu'on pouvait lire de ce moment-là dans ces mentalités de Billancourt. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le mythe de départ, c'est-à-dire des frères Renault à l'île Séguin et qui construisent une cathédrale pour l'automobile. En fait, c'est ça. Il y a ce grand thème du mythe industriel, parce qu'on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des photos qui ont 20 ans. Mais on voit bien qu'il présupposait, qu'il anticipait la disparition du mythe industriel, oui. On est bien aujourd'hui, puisque quand vous entendez sur des médias, on parle maintenant de réindustrialiser la France. Ben, ça veut dire que on l'a bien détruite. Ça veut bien dire que en 20 ans, les industries sont parties, sont ailleurs. Donc le travail sur Billancourt, sur Hispano Suiza, c'est un travail sur l'humain, mais il est absent. C'est-à-dire qu'il est absent, encore une fois, je fais encore le lien avec le Parthénon ou Herculanum, il n'y a plus personne. Donc l'humain est en creux, c'est une sorte de décalage d'un impact, mais l'humain n'est pas là, mais en même temps il est au cœur, puisque où est-il? S'il n'est plus là, qu'est-il devenu? Donc c'est la représentation de l'humain avec un grand détour, parce que je ne sais pas comment approcher à ce moment-là, personnellement, en tant qu'artiste. Je ne sais pas comment approcher l'humain, je ne sais pas. C'est ce moyen-là que je prends, qui m'est le plus commode. Mais puis après, ben, je dois m'interroger. Je m'interroge sans doute pourquoi et comment je fais pour aborder l'humain. Alors je vais l'aborder, parce que je ne peux pas, d'une part, continuer à faire indéfiniment. Vous savez, c'est comme le musicien qui a trouvé un bon morceau, qui répète toujours le même morceau. À un moment donné, c'est plus possible. Ou que l'écrivain qui écrit toujours le même roman. Donc là, l'idée, c'est... Stop, j'arrête parce que ça deviendrait académique. Parce que je peux aller faire à telle usine. Il y a plein de livres d'ailleurs là-dessus. Hein. Il y a des gens qui font des livres sur Détroit dans le Michigan. C'est Billancourt à l'échelon de la dimension parisienne. Vous pouvez faire des photos, des livres. Mais oui, mais après, c'est fini. Il n'y a plus de sens. Le sens ne. Parce que d'abord, c'est des époques post, et ça n'a plus le même sens. Donc approcher l'humain, là, je ne vais pas le faire par le portrait. Je ne vais pas le faire par. Parce que. Donc je vais trouver un moyen par hasard, parce que je suis assez fasciné de voir l'évolution, l'événement du féminisme. Ça m'a vraiment beaucoup pris et je me dis comment je peux manifester cet impact qu'a sur moi. Ça, parce que ça me fait prendre conscience de plein de choses, ce mouvement féministe. Parce que moi, je n'ai pas été élevé dans une culture féministe. Et je ne suis pas le seul. Et donc, par contre, je vois ça. Et comme j'ai cette sensibilité politique, pour moi, c'est du politique. On est complètement dans le politique. Et donc, à ce moment-là, j'ai une idée qui est de dire, dans le fond, qu'est-ce qui peut parler de ce qui se passe dans la tête des femmes aujourd'hui que les femmes. À ce moment-là, je suis en lien avec un groupe de jeunes femmes qui ont 25 ans et qui sont très conscientes et qui sont engagées dans ce domaine-là. Et je leur dis comment on peut donner à voir l'être féminin d'aujourd'hui, l'être féminin contemporain. Qu'est-ce que c'est l'être féminin de ces jeunes femmes de 25 ans qui sont les filles des premières, des pionnières de la bataille féministe qui s'engagent dans les années 70? Comment est-ce qu'on peut représenter cet être féminin? Parce que moi, ça y est, je suis convaincu de la démarche et je suis donc dans l'incapacité, avec ma culture non féministe, de représenter l'être féminin. Pour moi, c'est impossible. Alors j'ai des tas d'amis photographes qui ont des modèles, mets-toi comme ci, fais comme ça, puis on va prendre cette lumière-là. C'est toujours lui qui dirige. C'est pas l'être féminin qui représente. Il représente la perception masculine de l'être féminin, qui existe depuis plusieurs siècles, qui a évolué, mais qui est quand même cette origine-là. Et donc, en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de remettre en question le statut de l'auteur. L'auteur, quel qu'il soit. Le peintre, le photographe, l'écrivain, l'auteur. Ça m'intéresse. Et donc, je propose à ce groupe de femmes de m'utiliser, que moi, je ne suis utilisable que comme instrument de reproduction, mais c'est à elles de produire l'acte par quel biais elles peuvent manifester cette culture qu'elles portent à ce moment-là. Donc moi, je suis le photographe, j'ai les moyens techniques, le savoir technique, mais je n'ai rien à dire ni à suggérer. Et c'est ça qui sont les mascarades dans l'exposition. Cette femme vient avec une idée, voilà ce que je veux montrer, voilà comment on va le faire, voilà, et moi j'exécute. Alors, bon, c'est une vanité aussi, parce que c'est pas vrai, évidemment. J'ai beau me... Il est évident qu'à un moment donné... Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est une dialectique. Il y a la volonté de disparaître. Et puis en fait, à un moment donné, il y a quand même cette... Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un acte de laboratoire. Comment est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, il y a une œuvre en particulier avec Sylvia Baumgartner, qui est une danseuse suisse qui avait l'idée de vouloir montrer l'inégalité entre l'homme et la femme en termes de position corporelle dans les transports en commun ou dans les salles d'attente, et évidemment qu'il y a une codification qui est là, qui est évidente. Eh bien, on a failli échouer dans la mise en acte de cette opération, car elle voulait que ça soit réaliste dans un wagon de métro avec des figurants, etc. Je dis mais non, il faut qu'on ait recours à du symbole, puisque on fait pas un documentaire sur les positions autorisées pour l'homme et la femme dans les transports en commun. On est dans une représentation artistique symbolique. Donc c'est là où l'auteur reprend. C'est là, je suis obligé de dire mais on peut pas faire le documentaire. Donc échec. Elle me rappelle 15 jours après en disant tu peux réserver le studio. J'ai compris. Je viens avec ce qu'il faut. Elle arrive avec une énorme valise et un sac avec un carnet, tout était noté, et avec tous les uniformes, enfin de la robe au jean en passant par le costume, avec toutes les positions sur une chaise. Il n'y a qu'une chaise dans le studio sur un fond blanc, et on a tout compris. Comment passe-t-on de l'espace vide, rempli d'humains mais non apparents, que l'on devine évidemment, puisque tout ça ce sont les hommes qui l'habitaient, qui travaillaient, qui l'ont construit. Eh bien, j'ai continué, c'est une sorte de, comme vous savez, on chante la musique et pour passer un autre morceau. Ben là, je suis reparti dans l'espace du Petit Palais, par exemple, ou d'autres espaces industriels, mais je n'avais plus la même intention. Donc là, j'ai convoqué des artistes. C'est là où ça a commencé, l'idée de collaborer, de faire des œuvres communes. Et là, j'ai invité des chorés, des danseuses, des chorégraphes. Des chorégraphes, oui, parce qu'elles étaient danseuses en même temps productrices de spectacles de chorégraphie avec elles-mêmes. Vous savez, c'était l'époque où il y avait beaucoup de solos en danse contemporaine. Et donc, j'avais retenu des espaces, une briqueterie désaffectée, le Petit Palais dans sa période de transition avant la restauration, et d'autres lieux. Et à ce moment-là, la chorégraphe. Et là, ça commence aussi le travail conjoint avec le modèle. Le modèle n'est plus dirigé par l'auteur-photographe. C'est une association. Donc là, j'arrivais avec ma capacité d'expression dans l'espace, ça j'étais à l'aise, et la chorégraphe s'installait dans cet espace, à sa façon. Et je reproduisais cela. Voilà. Puis après, c'est parti sur les mascarades, où là, j'avais plus besoin. J'étais enfin libéré de l'alibi, de ma pratique aisée. La photo, j'en avais plus besoin, et puis ça venait juste comme avec Carole Fekete, où c'est juste son portrait sur un fond coloré qu'elle a choisi, avec l'habillement qu'elle a choisi. J'ai plus besoin de l'espace comme prétexte.
Rendez-vous très bientôt pour notre dernier entretien avec Philippe Moncel. L'exposition Billancourt et Vanité est présentée aux écuries du Jardin des Carmes jusqu'au 26 février prochain, du mardi au samedi, de 14h à 18h, entrée gratuite. Une série d'animations est programmée le temps de l'exposition. Je vous invite à vous rendre sur le site internet musée.aurillac.fr pour en découvrir le programme. À très bientôt.